Michel Rivasi, la sérénité heureuse d'un combat pour la vérité.
Alors que la COP21 vient de commencer, Michel Rivasi, députée européenne, Europe Écologie Les Verts, était de passage au restaurant Le Stendhal de Château-Arnoux la semaine dernière. L'occasion pour elle d'insister sur le lien évident entre changement climatique et traité transatlantique et de répondre aux questions des militants des collectifs Stop TAFTA 04 et Coalition Climat 04 à l'origine de sa venue. Pour rappel, TAFTA est un traité commercial négocié dans la plus grande opacité entre la France et les États-Unis, à la clé le plus grand marché commercial jamais créé et des possibilités de gains énormes au détriment de l'environnement, la santé et la vérité. Vous retrouverez tous nos articles sur ce sujet sur notre site fréquencemistral.com ainsi qu'une version longue de la conférence de Michel Rivasi à Château-Arnoux. Mais pour l'heure, les négociations entre les États-Unis et l'Europe sur TAFTA sont en stand-by, explique l'eurodéputé. Campagne présidentielle américaine oblige. Aux côtés de ses camarades écologistes locaux, Michel Rivasi a évoqué tous les sujets qu'elle défend et il y en a pléthore. Des plus locaux comme la centrale biomasse de Gardanne ou la privatisation des barrages EDF comme celui de l'Escale aux plus nationaux, COP21 évidemment, mais aussi la victoire judiciaire du professeur Serralini, un lanceur d'alerte conspué par ses pairs et qui avait le premier démontré la dangerosité du Roundup et des OGM. Michel Rivasi a notamment créé la CRIRAD, la commission de recherche et d'informations indépendantes sur la radioactivité en 1986 suite à l'accident de Tchernobyl. Outre le nucléaire, elle se bat aussi contre l'industrie pharmaceutique et ses tentaculaires lobbies. Elle vient d'ailleurs de publier Le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir, un livre qu'elle a coécrit avec Serge Rader et Marie-Odile Berthelat-Geffroy. Michel Rivasi est sur tous les fronts et ne lâche rien, surtout lorsqu'il s'agit de mettre la vérité au service de la santé et de la terre contre tous ceux qui font passer l'argent et le pouvoir avant la vie. Dans un récent discours au Parlement européen suite aux attentats, elle s'interrogeait d'ailleurs « Quand allons-nous arrêter notre dépendance aux pétromonarchies du Golfe au détriment de nos valeurs humanistes ?» Même dans une autre tribune conjointe, a évoqué le fait de rendre le pétrole comme un bien commun de l'humanité. Contrairement à d'autres édiles, Michel Rivasi n'a pas perdu de vue que ses combats sont pour l'intérêt commun. Simplicité, humanité et humilité avec Michel Rivasi. Le mot politique reprend ses lettres de noblesse pour une sobriété heureuse, ce concept de Pierre Rabhi qu'elle affectionne et qui lui va si bien, malgré sa vie de combat pour l'écologie. Je vous propose de l'écouter donner tout d'abord son point de vue sur la COP21 et la difficulté de consensus entre les pays en développement et les autres. Michel Rivasi.
Ce qui va se passer à Paris, c'est de pousser les États à demander à ce qu'il y ait une réduction des gaz à effet de serre qui va toucher aussi bien l'industrie que les transports, que l'agriculture, que les centrales thermiques et les logements, pour faire en sorte à ne pas dépasser ces 2 degrés. Mais là, il y a un rapport de force terrible entre les pays qui sont développés et qui sont les plus contributeurs aux gaz à effet de serre, avec des pays en voie de développement, mais où on met la Chine, qui est le plus gros producteur de gaz à effet de serre. Mais ramener aux personnes, c'est les États-Unis. Et donc les pays vous disent, mais attendez, vous, c'est vous qui nous mettez dans cette situation-là par rapport à l'activité humaine, nous on veut se développer, et laissez-nous la possibilité aussi d'émettre des gaz à effet de serre comme ce que vous avez mis. Bon, donc on est sur, après, vous voyez, c'est vraiment la palabre où il va falloir trouver un consensus. C'est ça les engagements de la COP, c'est des engagements de négociation au niveau des États qui représentent la planète. Bon. Maintenant, quand je parle de mobilisation citoyenne, c'est si par exemple on a un engagement qui dit il faut être en dessous des 2 degrés, il va falloir faire une évaluation systémique et collective, et pas qu'une évaluation comme font les Chinois où il n'y a que les Chinois qui disposent des chiffres. Vous voyez, il faut que ça soit une évaluation partagée sur la même méthode, qu'il y ait une clause de revoyure tous les 5 ans et que on choisit si c'est 40%, ça a été une proposition de l'Europe, on va voir ce que vont dire chaque État. Bon. Mais après, ça c'est État. Une fois, si par exemple c'est 40% au niveau des gaz à effet de serre, la diminution, eh bien nous après on veut que ça soit décliné sur les territoires. Et en plus, on veut qu'il y ait une modification du comportement des gens. Parce que vous ne pouvez pas avoir des gens, comme disait Macron, il faut qu'ils aient la volonté d'être milliardaires, quand de l'autre côté vous dites, il faut être sur la sobriété. Vous voyez, je veux dire qu'après il faut une cohérence entre ce qui va être signé, l'engagement de l'Europe, dont de la France, de la Chine, des États-Unis, de la Russie, etc. Après, il faut décliner ça sur les territoires avec un engagement. C'est pour ça que je parle de l'éducation. C'est que je ne vois pas comment, sur les territoires, on va dire qu'est-ce que ça veut dire réduire de 40% nos gaz à effet de serre. Sur l'agriculture, qu'est-ce qu'on va demander aux agriculteurs? Qu'est-ce qu'on va demander aux industriels? Qu'est-ce qu'on a? Et que on ne joue pas aussi sur comment rendre nos gamins les plus responsables possibles. Voilà. C'est pour ça que moi, j'articule tout. Et je trouve que les autres partis, quand vous regardez leur programme, ils n'ont pas du tout intégré la sobriété. Moi, j'aime bien la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, tu vois. Parce qu'il faut être sobre, et les gens le comprennent, il faut limiter les gaspillages. Alors, tu parlais de gaspillage alimentaire, mais de gaspillage aussi sur l'énergie, etc. Mais heureux, parce que le fait, vous voyez, de moins consommer, le fait de partager plus avec les autres, ben, ça rend heureux. Vous n'êtes pas complètement sur l'individualisme. C'est pour ça que j'aime bien faire l'articulation. Mais vous voyez, la solidarité, je veux dire, ça ne se décrète pas. Ça se construit, la solidarité. Oui, et puis moi, j'insiste sur le côté heureux.
Ouais.
Moi, je prends plaisir à être écologiste. Si on est sur la sobriété, les gens pensent qu'on est triste, qu'on est... Mais non, d'acheter une bagnole, faire attention à la consommation de ta voiture, aux émissions, se dire, bah, je vais prendre un vélo, je veux me déplacer en transport, je fais gaffe à la bouffe, parce qu'en plus, je discutais avec les gens, parce que quand vous allez dans les fermes bio, tout ça, vous avez un vrai rapport humain, c'est sympa, quoi. Quand vous voyez Gardanne, c'est quand même 800 à 900 000 tonnes de bois par an pour faire de l'électricité et pour être dans les accords d'ailleurs hein, de Kyoto, hein, puisque à Kyoto on devait faire 23% d'énergie renouvelable, on en est très loin, et donc on fait ces centrales en disant c'est des centrales bio. Il y a tous les côtés négatifs. 800 à 900 000 tonnes de bois, on ne les a pas. Donc dans le cahier des charges, il y a 40% qui viennent du Canada. Comment peut-on faire la COP21 pour la diminution des gaz à effet de serre et aller chercher du bois au Canada? J'ai fait une émission récemment sur les peuples autochtones. Je vous signale que le bois va être coupé dans des régions où il y a les Indiens. Donc déjà, vous supprimez aussi le biotope par rapport à ces peuples autochtones. Bon. Ils disent 40% et d'après les dernières infos, ça peut aller jusqu'à 60%. En même temps, ça rentre en contradiction avec nos chaudières à bois qui sont dans les petits villages, qui servent à fournir à la fois la chaleur. Et là, il y a un rendement très important pour la chaleur et l'eau chaude. Là, il n'y a même pas l'utilisation de la chaleur. C'est-à-dire qu'on n'est que sur la fabrication de l'électricité. Donc, c'est complètement aberrant. Alors, par contre, d'un point de vue européen, on l'a fait passer dans une directive pour interdire ça. C'est-à-dire que des centrales à biomasse, si elles fabriquent l'électricité, elles doivent obligatoirement avoir la cogénération avec la chaleur. Parce que là, c'est complètement dingue. Hein. Donc ça, c'est pour moi, c'est des faux projets, hein, qui vont même à l'encontre de ce qu'on veut faire d'un point de vue environnemental. Et vous parlez de la santé, effectivement, là, il faut mettre des filtres, mais incroyables, qui coûtent une fortune pour réduire les particules.
Juste un petit mot sur la victoire du professeur Serranini, il y a 2 jours, une belle victoire judiciaire et un symbole fort de l'indépendance de la recherche.
Ben écoutez, j'ai fait une réunion avec lui il y a 3 jours, hein, j'étais à Caen. Et on était, c'était super, parce que Serralini est un lanceur d'alerte. Alors, un lanceur d'alerte et chercheur indépendant, grâce à une mobilisation citoyenne qui lui finance ses recherches avec le CRIGEN, hein, qui est le petit de la CRIRAD. Vous voyez, on est tous vraiment en réseau. Et il est très content d'avoir gagné son procès, parce qu'il a été diffamé, attaqué. Il a eu une phase très difficile. Et donc maintenant, vous le voyez réjoui. Et en plus, ces recherches m'aident énormément parce que sur l'Europe, on réoriente les recherches de l'agence européenne, l'EFSA, qui est à Parme, où je suis allé il n'y a pas très longtemps, pour leur dire le Roundup, hein, qui est vraiment le pesticide qui est le plus employé au monde. Eh bien, l'industrie n'a analysé que le glyphosate sans les adjuvants. Or, le glyphosate sans les adjuvants a un rôle de pesticide très faible. Mais c'est lui qui l'a démontré. Maintenant, on réoriente la recherche suivant ses études. Donc, c'est une très belle victoire.